En ouvrant la parole de Dieu, nous ne terminons pas l'adoration. C'est en fait l'adoration qui continue. Alors, vous demandez, on a fini 1 Corinthiens, finalement, la semaine dernière, où est-ce qu'on va aller maintenant? Eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles, encore à 1 Corinthiens. Et je blague pas, hein. Personne bouge. Non, je blague pas. Michel, sous ta chaise, il y a mon... Tu peux me l'amener, s'il te plaît? C'est par terre. Les anciens ont parlé. On va pas recommencer le livre, hein. Mais les anciens ont parlé ensemble du besoin de réfléchir en tant qu'église sur une des ordonnances que Christ nous a laissées. Vous savez, quand Christ a laissé ses apôtres et ses disciples, cette église naissante, il leur a donné sa parole. Et c'est de sa parole, en fait, que nous avons la vie, parce que ça nous révèle le Père, ça nous révèle le Fils, ça nous révèle le plan du salut, ça nous révèle notre avenir. C'est par... Nous ne vivons pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis, il nous a laissé son esprit. Il a dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer un consolateur. Il dit, c'est encore mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en aille, je peux envoyer ce consolateur. Il sera en vous et je serai en vous à travers lui. Christ nous est donné, il est parmi nous, grâce à l'œuvre de son Saint-Esprit. Et puis, il nous a laissé que deux ordonnances pour l'Église, deux événements, deux actes, si vous voulez, pour marquer notre alliance au Seigneur et pour nous rappeler donc de sa parole et de lui-même. Et ces deux choses sont quoi? Vous les savez, j'imagine. Nous avons un qui commence avec la lettre B, c'est le baptême. Et puis l'autre, c'est ce que nous avons observé ce matin, c'est la Sainte Cène ou le repas du Seigneur. Et donc, nous voulons considérer ce repas. Et le but, c'est vers une meilleure appréciation de la scène et de ce repas. Et donc aujourd'hui, et puis encore dans un mois, parce que nous allons avoir un culte à Sarcelles la semaine prochaine, mais nous serons de retour après, donc vous nous avez pas vus pour la dernière fois encore. Nous allons revenir sur ce sujet de la scène et je vous demande de garder à l'esprit qu'aujourd'hui n'est qu'une introduction. Ce n'est pas tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Il y a encore d'autres choses à venir, mais nous allons essayer de poser un peu le fondement pour revenir dans un mois et bâtir dessus. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur ce repas du Seigneur? Et le premier point, qui est le seul grand point pour ce matin, c'est que nous voulons remarquer que, avant tout, c'est un événement. C'est un événement. Quand nous pensons à ce qu'il appelait souvent la scène, nous devons penser tout d'abord, non pas à des éléments, mais à un événement. Vous comprenez la différence? Notre esprit, nos pensées sur ce que c'est doivent aller d'abord, non pas à des éléments, il y a des éléments devant moi, mais plutôt à un événement. Il y a un événement qui s'est produit il y a quelques minutes ici dans la salle. Et je pense que ceci est très très important et que c'est ici qu'il faut commencer. Et j'ai dit déjà qu'il y a deux ordonnances, deux commandements que Dieu nous a laissés, et que un est le baptême. Quand nous pensons au baptême, il y a des éléments, hein, il faut de l'eau. Mais nous pensons avant tout à un événement. Le baptême n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans la poche, qu'on peut ramener chez nous, qu'on peut mettre sur l'étagère, qu'on peut regarder silencieusement. On ne peut pas regarder un baptême. Un baptême, c'est un événement qui se fait et puis qui s'est fait. Et ça doit être pareil avec l'ordonnance de la scène. C'est avant tout un acte et un événement. Et je veux vous montrer ça même de la Bible, que c'est le regard biblique sur cette ordonnance. Et ceci est démontré dans, si nous regardons la Bible elle-même, les données que nous avons dans la parole de Dieu, par les noms qui sont donnés à cette ordonnance. En cherchant un titre pour cet événement dans la Bible, quel est le titre qu'on pourrait donner à ce que nous avons fait aujourd'hui? Eh bien, regardez ce que nous trouvons. C'est en 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 20, il dit « Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger quoi ? Le repas du Seigneur. » Le repas du Seigneur. Regardez le verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour quoi? Le repas. Dans un sens, ça c'est le repas de l'Église. Le repas du Seigneur. Et un repas est avant tout un événement, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui se passe dans le temps. Et puis, si vous reculez de deux chapitres, c'est le verset qui a été cité tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 10, enfin, reculez d'un seul chapitre, pardon, et le verset 21, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21, il fait allusion donc à ce même événement, il dit, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez pas participer à quoi ? La table du Seigneur et la table des démons. » Alors, il est évident, je crois, que quand il parle d'une table, il ne parle pas de quelque chose physique qui a été fait en bois ou en métal. Hein, c'est pas de la table elle-même. Il parle de la même chose que quand nous on dit « à table ». Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « à table » ? Qu'on va se réunir pour faire les devoirs, qu'on va avoir une réunion importante. Non, ça veut dire que le repas est prêt. Et donc, la table fait référence à ce repas qui va se faire autour de la table. Et c'est pour ça que nous l'appelons souvent la Sainte Cène. Le mot cène, C-E-N-E, c'est un repas du soir. Nous parlons de la dernière cène ou du dernier repas de Christ avec ses disciples. Et nous voyons cela aussi en Matthieu chapitre 26, où il dit « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Verset 20, « Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze, verset 26, pendant qu'il mangeait. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rempit et donna aux disciples en disant « Prenez, mangez ceci. » Et mon corps. Donc, c'est un repas. L'ordonnance que Christ nous laisse est d'avoir un repas. D'avoir un repas. Et il y a un troisième nom pour cet événement. Ça se trouve en Actes. Si vous voulez, vous pouvez le chercher en Actes chapitre 2. Et le verset 42 est important parce que ça nous donne un peu les choses fondamentales autour desquelles l'Église focalisait, se concentrait. Qu'est-ce que cette Église faisait de jour en jour? Acte 2, 42 dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans quoi? La fraction du pain, et puis dans les prières. La fraction du pain. On appelle ça, donc, la Bible appelle ça la fraction du pain. Et vous voyez que notre attention est dirigée non vers des aliments ou des éléments en isolation, mais vers un événement. Et nous voyons ça dans les noms que la Bible donne à cette ordonnance. Et puis nous voyons aussi cela dans les verbes descriptifs. Parce que le plus souvent du temps, quand la Bible parle de ce qui se passe, ce que nous avons fait, elle ne va pas utiliser un nom, elle va utiliser des verbes. Des gens ont fait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, vous êtes déjà en Actes chapitre 2. Regardez le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et puis là, nous avons un verbe. Ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est le verbe de rompre le pain. Donc, pour observer cette ordonnance, il faut faire quelque chose. Nous voyons aussi en chapitre 20 et le verset 7, il dit que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Verset 11, quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Donc c'est rompre le pain. Le deuxième verbe, je viens de le lire dans ce verset, c'est le verbe, c'est quel verbe? C'est manger. C'est manger. Donc, pour observer ce commandement, il faut manger. Et ça, bon, j'ai pas mis les références parce qu'ils sont dans chaque fois où on parle de la scène. Je vous lis 1 Corinthiens 11, 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Okay, cette idée de rompre le pain et puis de manger le pain. Et donc, le troisième verbe, c'est bien évident, c'est quoi? Il ne faut pas seulement manger, il faut aussi, vous l'avez dit, il faut aussi boire. Et je vous lis donc de Matthieu 26, 27, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Marc 14, 20, 23, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Alors, je vous invite à revenir en 1 Corinthiens chapitre 11. Et juste pour sentir encore comment la Bible va décrire cette ordonnance. C'est par des verbes qui sont répétés. 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 26, cherchez les verbes qui décrivent cet événement. Il dit en Corinthiens 11, 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Vous voyez, c'est un événement. Comme le baptême, le repas est avant tout un événement. Voici les verbes. Rompre le pain, manger le pain, boire la coupe. Alors, quand vous pensez à la scène, ne pensez pas, premièrement, à des éléments ou des aliments, avec lesquels il faut faire quelque chose. Pensez plutôt à un événement pour lequel des éléments sont nécessaires. Mais c'est avant tout un événement où des éléments sont nécessaires. Pensons de nouveau au baptême. L'eau est essentielle au baptême, n'est-ce pas? Si vous êtes baptiste, il faut même beaucoup d'eau. Hein, pour le baptême. Mais l'eau n'est pas l'essence du baptême, de ce que c'est le baptême. Le baptême est un rite, c'est un événement, c'est quelque chose qu'on fait ou qu'on se fait faire. C'est pas l'eau qui rend l'événement spécial, c'est plutôt l'événement qui va rendre l'eau spéciale. Et après le baptême, on ne se soucie pas de ce qu'on fait avec l'eau. On ne met pas l'eau à part comme si maintenant elle est une eau sacrée et sainte et il faut la préserver. Pourquoi ? Parce que ce qui prime, c'est l'événement, l'importance, le sens de ce rite se trouve dans l'acte, pas dans l'eau. Et c'est la même chose avec la scène. Quoique les éléments sont nécessaires, ils sont essentiels. Ce qui prime, c'est l'événement. Donc ce ne sont pas les éléments qui donnent de l'importance au repas, c'est le repas qui donne de l'importance aux éléments. J'espère que vous me suivez là. Nous pouvons même dire que les éléments qui sont séparés, qui sont isolés de l'événement, ils n'ont pas de signification particulière. Ces éléments, lorsqu'ils étaient dans la salle derrière, avant d'être amenés ici, si on les regardait, si on les observait, ces éléments n'avaient pas de signification particulière, isolés d'un acte ou d'un événement. Et les éléments après l'événement n'ont pas d'importance particulière. La signification des éléments se trouve dans l'événement lui-même. Et dès qu'on enlève l'acte et l'événement, les aliments ou les éléments n'ont plus un sens spécial et particulier. On regarde l'eau dans le baptistère, par exemple. Si on imagine que c'est ici, l'eau toute seule. Si on ne fait rien avec, elle n'a pas trop de sens, de signification particulière. Et de même, le pain qui est sur la table, le fruit de la vigne, comme l'appellent les évangiles, là, sur la table, si on n'en fait rien, si elle reste là, eh bien, ils n'ont pas de sens particulier selon la Bible. La scène est un événement et non pas des éléments. Alors, pourquoi prendre tout ce temps pour ces détails? Vous dites, mais pourquoi tous ces détails pour dire ça? Eh bien, parce qu'il y a une polémique que nous ne pouvons pas éviter. Et vous êtes probablement déjà conscient du fait qu'il y a plus de 400 000 hommes dans le monde aujourd'hui qui exercent le ministère chrétien et qui offre ce repas chaque semaine, si ce n'est pas chaque jour dans certains cas, aux croyants. Et ces hommes préfèrent comme titre non pas le mot pasteur ou ancien, qui sont des noms bibliques pour les ministres de la Nouvelle Alliance, mais ils préfèrent le mot prêtre. Ils se disent, et on les appelle, des prêtres. Et pourquoi le titre prêtre? Eh bien, parce qu'un prêtre offre des sacrifices sur un autel. Effectivement, quand vous entrez dans leur salle de culte, et il y en a beaucoup dans ce pays, vous verrez qu'il y a au centre, non pas une chaire ou un pupitre comme ceci, d'où la parole de Dieu est proclamée comme la vie du troupeau et des personnes, mais vous verrez au centre ce qu'ils appellent un quoi? Un autel sur lequel ils vont faire des sacrifices continuels. Et quand le prêtre soulève le pain et il dit, soit en latin c'est hoc est enim corpus meum, c'est-à-dire ceci est mon corps. Eh bien, ce qui se passe selon le catéchisme de l'Église romaine, et cela date, je crois, de 2006, hein, ce catéchisme qui a été préparé par un certain cardinal Ratzinger, qui est plus tard devenu le pape, qui est encore vivant aujourd'hui, même s'il n'est plus le pape. Voici ce qui se passe. Et c'est sur leur site internet. Hein, ils disent... Le catéchisme est divisé en paragraphes, et donc ça c'est le paragraphe 1413. Par la consécration s'opère la transsubstantiation du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ, sous les espèces consacrées du pain et du vin, le Christ lui-même, vivant et glorieux, est présent de manière vraie, réelle et substantielle. Son corps et son sang, avec son âme et sa divinité. Donc, il y a une transformation qui se fait, et ce pain devient quelque chose, devient le corps de Christ, d'une manière, il le dit bien, vraie, réelle et substantielle dans toute sa substance. Attention, hein, ce n'est pas que le Christ est seulement réellement présent dans les éléments, c'est que le pain est réellement devenu le corps du Christ. Et l'Église romaine prend cette doctrine très, très au sérieux. Écoutez ce que dit le Concile de Trente, et vous voyez leur catéchisme actuel cite même ici en bas ce concile, donc c'est quelque chose qu'ils acceptent toujours. Et voici ce que disait ce concile qui s'est réuni maintenant il y a 500 ans. Mais il dit, si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, c'est la Sainte Cène, ne sont pas contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et en conséquence le Christ tout entier, mais dit qu'ils n'y sont qu'en tant qu'un signe, ou en figure, ou virtuellement, eh bien, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit éternellement. Et pour ceux qui disent, c'est vrai, c'est le corps de Christ, c'est réellement, substantiellement le corps de Christ, mais ça demeure quand même aussi le pain. Ça, c'était en fait la position de Luther. Il voyait que ça demeurait du pain, mais que c'était aussi réellement le corps de Christ. Et ça changeait son comportement face à la scène. Il y a une histoire qui est racontée une fois, par exemple, où une goutte du vin est tombée par terre et tout de suite, Luther s'est jeté par terre, il a léché le vin du sol avec sa langue, parce qu'il ne faut pas faire tomber le sang de Christ par terre. Mais même contre lui, ils avaient des mots assez forts. Il disait, si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure, demeure avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et s'il nie ce changement admirable et unique de toute la substance du pain en son corps et toute la substance du vin en son sang, alors que demeurent les espèces du pain et du vin, que l'Église catholique appelle d'une manière très appropriée transsubstantiation, eh bien, qu'il soit anathème. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas éviter cette polémique, parce que, selon certains, nous sommes anathèmes. Il faut bien réfléchir. Que dit la Bible? On n'a pas le droit de prendre cet enseignement à la légère. Et même l'Église catholique ne nous permet pas de prendre cet enseignement à la légère. Elle dit, elle est importante. Vous êtes anathème si vous avez une mauvaise compréhension de ce qui se passe ici. Et donc, puisque Jésus est réellement présent dans les éléments, il faut adorer les éléments. Et donc, je reviens donc au catéchisme récent, donc de 2006, paragraphe 1378. Qui est appelé le culte de l'Eucharistie. Et un culte, c'est une adoration qui va être offerte aux éléments. Et c'est eux qui disent, je cite, « Dans la liturgie de la messe, nous exprimons notre foi en la présence réelle du Christ sous les espaces du pain et du vin, entre autres, en fléchissant les genoux, ou en nous inclinant profondément en signe d'adoration du Seigneur. » C'est-à-dire, quand vous arrivez devant donc ces éléments, vous devez fléchir les genoux, vous devez vous incliner profondément en signe d'adoration du Sauveur, parce que c'est le Sauveur. continue, c'est le même paragraphe. L'Église catholique a rendu et continue à rendre ce culte d'adoration qui est dû au sacrement de l'Eucharistie. Non seulement durant la messe, c'est-à-dire pendant l'événement, mais aussi en dehors de sa célébration, en conservant avec le plus grand soin les hosties consacrées et en les présentant aux fidèles pour qu'ils les vénèrent avec solennité et les portent en procession. Donc, ils vont vous présenter, après le culte, si vous voulez, on va vous présenter ce vin et ce pain, et vous allez pouvoir les vénérer et les adorer. Parce que c'est effectivement Christ. Et puisque Christ, ils disent, est réellement présent dans les éléments demeurent, le corps et le sang de Christ, jusqu'à ce que les éléments n'existent plus. Et donc, il faut les adorer et il faut continuer à les adorer même après la messe. Ça nous donne une situation difficile. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Parce que les restes demeurent, donc, le corps et le sang de Jésus-Christ. Eh bien, ils vont nous dire ce qu'il faut faire encore du catéchisme. Il dit, la sainte réserve. Si vous êtes catholique, je dis catholique, vous savez un peu ce que c'est. Ils appellent souvent ça le tabernacle. Était d'abord destinée à garder dignement l'Eucharistie pour qu'elle puisse être portée aux malades et aux absents en dehors de la messe. Mais par l'approfondissement de la foi en la présence réelle du Christ dans son Eucharistie, l'Église a pris conscience du sens de l'adoration silencieuse du Seigneur présent sous les espèces eucharistiques. C'est-à-dire il y a une adoration silencieuse qu'on peut donner devant ces choses. Et donc, ils vont construire, souvent c'est en or, et on va pouvoir mettre les éléments dedans pour que les gens puissent venir, même en semaine, les regarder, les vénérer, les adorer. Et il continue, même paragraphe, c'est pour cela que le tabernacle doit être placé à un endroit particulièrement digne de l'Église. Il doit être construit de telle façon qu'il souligne et manifeste la vérité de la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Et quand il y a des processions, ils vont porter ça. Et il y en a de très grands tabernacles hein, qui font plus d'un mètre de large et un mètre et demi de haut. Ça, il faut au moins quatre hommes pour le porter. Et ça, tout le monde s'incline devant et adore le Seigneur Jésus en adorant donc ces éléments. L'Église romaine exige qu'on adore les éléments comme étant Christ lui-même. Et c'est pour cela que tant de chrétiens ont dit que la messe était et demeure une idolâtrie. C'était vraiment la question de la réforme. Ils ne disaient pas qu'ils adoraient notre Dieu, mais qu'ils étaient quand même idolâtres. Vous vous rappelez que quand Moïse est parti, Aaron il fait un veau d'or. Et il dit quoi? Il dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Il leur demande pas d'adorer un autre Dieu, mais il leur demande d'adorer Dieu à travers cette idole. Et qu'est-ce qu'il fallait faire avec l'idole? Il fallait le briser. Il y a même le serpent d'airain qui était là et on regardait pour être guéri. Plus tard, vous saviez, il y a eu un roi qui a dû le détruire parce qu'on a commencé à l'adorer. Et c'est ce que ces chrétiens ont dit, vous adorez plus le Seigneur Jésus-Christ, vous adorez des éléments. Et vous savez, ils ont payé très, très cher. Des milliers, et je ne blague pas, hein, mais des milliers de chrétiens ont été tués, persécutés, brûlés vifs, parce qu'ils refusaient de changer leur opinion et d'adorer les éléments sur ce point spécifique. Alors, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour vos croyances dans ce domaine? Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Je vous donne un seul, celui d'un paysan. Il s'appelait Pierre Chevet. Il était vigneron à Villeparisis. C'est une ville qui touche Mitrimori, donc on a des gens qui habitent par là. Et il avait tellement lu son Nouveau Testament qu'il le savait sur le doigt, on disait de lui. Et un jour, il se fait arrêter. Donc c'est encore quand la France est catholique. Hein. Et on l'a conduit à la prison du Châtelet à Paris. Quand vous passez par là, vous devez savoir, il y a beaucoup de chrétiens protestants qui ont été emprisonnés là-bas. Et le prêtre chargé de l'interroger lui demande s'il croyait à la messe. C'est comme ça, est-ce que tu crois à la messe? Est-elle contenue au Nouveau Testament, demande-t-il. C'est sa question au prêtre. Est-ce que la messe, telle que vous la pratiquez, est-ce qu'elle se trouve dans le Nouveau Testament? Et le prêtre a dû avouer que non. Et il a dit simplement, dans ce cas, je n'y crois pas. Et puis, avec un peu d'humeur presque, il a dit, ben vous savez, mes parents sont morts, ils ont laissé un testament. Et c'est moi qui voulais m'occuper de ce testament, c'est-à-dire leur désir. Il a dit, et j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé, mais j'ai fait encore plus qu'ils m'ont demandé. Et j'ai décidé sur d'autres choses dont ils n'ont pas parlé. Et puis il leur demande, mais qu'est-ce que vous pensez que les autres bénéficiaient, donc, de ce testament, ont pensé de moi? Si moi je prenne la liberté de faire pas seulement ce qu'ils désirent, mais de faire encore plus en leur nom, et de donner cet argent à cette personne-là, ou de la garder pour moi. Il a dit, le Seigneur Jésus nous a laissé un testament, ce n'est pas à nous d'ajouter à sa volonté. Et, bien sûr, il a dû payer cher. Et on l'a finalement amené devant la cathédrale donc de Notre-Dame, et il a été lié sur le bûcher. Et ses derniers mots étaient « que je suis heureux, que je suis heureux ». Donc, dans cette ville même, et autour de nous, les gens payaient cher pour du fait qu'ils ont rejeté cette doctrine de l'Église romaine. Mais il faut savoir que l'Église n'a jamais renoncé à ses propos. L'Église romaine a tempéré son discours, mais écoutez ce que le catéchisme actuellement en vigueur dit. Sur leur site par rapport à nos églises. C'est le paragraphe 1400. Il dit, les communautés ecclésiales issues de la réforme séparées de l'Église catholique, donc ça c'est nous dans leurs yeux, hein, nous sommes séparés, ils attendent qu'on revienne. En raison surtout de l'absence du sacrement de l'ordre, n'ont pas conservé la substance propre et intégrale du mystère eucharistique. C'est pour cette raison, pour l'Église catholique, l'intercommunion eucharistique avec ses communautés n'est pas possible. Il y a des protestants qui désirent unir avec l'Église catholique, mais l'Église romaine dit, en ce qui concerne la scène, ce qu'on appelle couramment la messe, c'est impossible. On ne peut pas faire la messe ensemble. Nous sommes tous, selon l'Église de Rome, anathème, maudit devant Dieu. Et donc, il faut s'assurer que nous savons ce que dit la Bible. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Ce n'est pas une chose à moquer. Les gens qui croient sincèrement à ces choses, on les respecte, on les aime. Mais les enjeux, selon le catéchisme, c'est la vie ou la mort. Donc, il faut bien y réfléchir. Et juste un élément là-dessus, une façon de le regarder. Je veux vous montrer un petit détail que je trouve très significatif. Et ça se trouve dans Luc chapitre 22. Alors, il y a quatre récits de la scène. Il y a Matthieu, Marc, Luc, et puis 1 Corinthiens chapitre 11. Alors, moi j'ai pris les quatre, je les ai mis côte à côte, et je vais essayer de les comparer. Et regardez Luc chapitre 22, verset 19, et je l'ai ici, il dit, « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Alors voici la question que je vous pose. Je veux que vous réfléchissiez un peu. Quand il dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous », c'est quoi le « ceci » De quoi parle-t-il quand il dit « ceci » Alors, je vous donne juste une petite leçon de grammaire. Dans certaines langues comme l'anglais, il n'y a un seul article. Hein, c'est « the ». Donc c'est « the fille » ou « the garçon », c'est toujours pareil. C'est pas bête comme idée, hein. Et puis, dans d'autres langues, il y a deux genres. Donc en français, on a « le » et on a aussi « la ». Donc, un garçon, il porte une chemise masculine, hein, parce qu'il faut utiliser la forme féminine de l'article masculin. Mais une fille porte un chemisier féminin. Il faut utiliser la forme masculine de l'article féminin. Alors, si vous trouvez la logique, dites-le moi. Hein. Mais dans d'autres langues, et c'est ce qui me réconforte, c'est encore pire. Ils ont même trois genres. Ils ont le masculin, le féminin, et puis, donc en allemand, vous avez, c'est quoi, der, die et das. Et en grec, c'est pareil. Vous avez trois dans le genre. Et vous savez, le pronom doit correspondre avec le nom qu'il remplace. Je ne veux pas dire « prends du pain et mange-la ». Hein? Mange-le. Je dois dire « prends du pain, mange-le ». Non. Relisons le verset. Luc 22, 19 dit « Ensuite, il prit du pain ». Et en grec, « pain » est un nom masculin. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant « ceci ». Et « ceci » en grec est un pronom neutre. Ce n'est pas masculin. C'est comme si vous lisez le verset ainsi. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna en disant « Celle-ci est mon corps qui est donné pour vous. » Alors tout de suite, il y a quelque chose qui cloche. Vous dites, mais s'il parlait uniquement et exclusivement du pain en tant qu'un élément masculin, il aurait trouvé un pronom, il aurait utilisé un pronom masculin. Mais dans tous ces récits, je vous ai regardé, dans tous les quatre récits, nous trouvons un pronom qui n'est pas masculin. Le pain, masculin, mais après il dit ceci, c'est un autre genre. Donc quand Jésus dit ceci, pronom neutre, est mon corps qui est donné pour vous, il ne peut pas être en train de parler uniquement du pain en tant qu'un élément ou un aliment. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir une équation exacte entre le pain et mon corps qui est versé pour vous. Ce n'est pas une équation exacte et mathématique. Si le ceci n'est pas le pain, donc, en tant qu'un élément tout simple, de quoi parle-t-il quand il dit « ceci est mon corps qui est donné pour vous » Qu'en pensez-vous? Je pense que vous trouverez la réponse si vous continuez à lire, hein, car il va réutiliser le même pronom. Mais reprenons le verset 19. Ensuite, il prit du pain et... Alors, un moment. Notez qu'il ne dit pas ici tout de suite « c'est mon corps ». C'est-à-dire, ce n'est pas en prenant le pain qu'il dit « ceci est mon corps ». Il prend le pain et après avoir rendu grâce, il remplit et leur donna en disant « ceci est mon corps ». C'est en rampant le pain et en donnant le pain aux disciples qui dit « ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Et puis notez ce qu'il dit, « faites ceci ». Faites ceci en mémoire de moi. Alors, encore la question, quand Jésus dit « faites ceci », de quoi parle-t-il? C'est quoi le « ceci » Est-ce qu'il est en train de dire « faites ceci », c'est-à-dire « faites du pain » S'il dit « ceci, le pain et mon corps », eh bien « faites ceci », est-ce qu'il est en train de dire « faites du pain » Non, pas du pain en tant qu'élément, mais de l'événement dans son intégralité. Hein, Jésus ne dit pas « faites du pain », Jésus dit « faites ceci », c'est-à-dire « prenez du pain, rendez grâce, rampez le pain et mangez le pain ». Faites ceci en mémoire de moi. Le « ceci », c'est l'événement. C'est quand on prend le pain, on le rampe, on le mange. Notez donc que quand Jésus dit « mon corps qui est donné pour vous », il dit « ceci, mon corps qui est donné pour vous », même là, il ne parle pas simplement d'un corps en tant que tel, mais d'un corps qui est quoi ? Qui est donné. Même là, un corps qui est donné, ce n'est pas un élément, c'est un acte. Alors, qu'est-ce qui peut représenter un corps qui est donné pour vous ? Jésus dit, ben, ceci est mon corps donné pour vous. C'est quoi, mon corps donné pour vous ? Eh bien, c'est ceci, c'est le pain qui est pris, qui est rompu, qui est donné, qui est mangé. Ceci est mon corps donné pour vous. Pas tout simplement mon corps, mais mon corps donné pour vous. Et Jésus dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous, alors faites ceci. Ceci, pas le pain tout simple, mais le pain rompu, le pain donné, le pain mangé. Ça, cet acte, cet événement, ce geste, ça c'est mon corps qui est donné pour vous. Alors faites ceci en mémoire de moi. Prenez, rampez, mangez en mémoire de moi. Il n'y a pas d'équation exacte entre le pain d'une part et mon corps qui est donné pour vous de l'autre part. Jésus ne le dit pas. L'équation, si vous voulez, est entre un pain qui est rompu, donné et mangé, d'un côté, et puis mon corps qui est donné pour vous de l'autre. Donc il y a une image, c'est presque un film d'un côté avec un film de l'autre, un événement, le pain rompu d'un côté et un événement, le corps rompu de l'autre côté. Pas un élément contre un élément, mais un événement qui remplace un événement, mon corps donné. Vous voyez, j'espère que ce n'est pas un élément donc, qui a de l'importance, mais un événement. Et c'est la même chose pour la coupe. Il est intéressant de noter que nous ne trouvons jamais une référence au vin ou aux fruits de la vigne. Alors nous savons que Jésus buvait ce qu'il appelle le fruit de la vigne, parce qu'il le dit, le soir même, il dit « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu », Luc 22, 18. Alors, si vous pensez « Mais qu'est-ce qu'il buvait en fait ? Qu'est-ce que Jésus buvait ?» physiquement ce soir-là, matériellement, Jésus nous donne la réponse très claire. Si Jésus dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne », c'est qu'il buvait ce soir-là rien de plus et rien de moins que le fruit de la vigne. C'est-à-dire, il ne buvait pas son propre sang. Mais Jésus dit toujours la coupe. Et la coupe, ça fait référence, bien sûr, à ce qui est dans la coupe. Mais si on met quelque chose dans une coupe, c'est pour pouvoir faire quoi ? C'est pour pouvoir boire. Et donc, nous voyons déjà l'image de cet événement de boire ce qui est dans la coupe. Et il n'y a pas ici, comme avec le pain et le corps, une équation exacte entre le fruit de la vigne et le sang. Jésus ne dit pas ce vin est mon sang. Si vous comparez, je les ai mis ici pour que vous voyez, les quatre récits. En Matthieu et en Marc, nous avons exactement la même chose. Nous lisons « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. » Matthieu continue à dire « Pour le pardon des péchés. » Mais comme avec chaque maîtresse, professeur ou parent ou pasteur même, Jésus, au cours d'un repas, puisque après tout c'est un repas, c'est un événement qui dure, il va le dire de plusieurs manières. Il va s'expliquer si vous voulez. Et Jésus s'est certainement expliqué et Luc nous donne une autre façon que Jésus l'a dit. Jésus n'a pas seulement dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance ». Jésus a aussi dit ce soir-là « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Alors écoutez encore ces paroles. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Est-ce qu'il peut avoir une équation exacte entre une coupe, ou même ce qui est dans la coupe, d'un côté, et une nouvelle alliance de l'autre ? Est-ce qu'il est possible d'imaginer que la coupe devient, se transforme en alliance ? Et qu'en buvant la coupe, nous buvons une alliance. Jésus a dit la même chose de plusieurs façons. Il faut lui laisser le privilège de s'expliquer lui-même. Quand Jésus vient à Paul, Jésus donne à Paul personnellement les paroles qu'il a utilisées. 1 Corinthiens 11 et verset 23, je vous le cite, il dit, Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire, il a reçu par une révélation directe. Et historiquement, ce qui est intéressant avec le récit d'un Corinthien, c'est que c'est le premier des récits à être écrit, car la lettre d'un Corinthien a été écrite avant les évangiles. Et donc là, nous avons Jésus qui personnellement dit à Paul ce qu'il a dit. Et il dit ceci, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit. Et voilà, Christ, par une révélation directe à Paul, donne à l'Église les paroles exactes qu'il a utilisées. Jésus l'a dit au moins de deux façons. Les évangiles nous le démontrent, mais voici la manière dont Jésus lui-même a choisi de le répéter à son apôtre, l'apôtre païen. Nous ne pouvons pas dénigrer le récit d'un Corinthien en disant « bon, ça ne fait pas partie des évangiles ». Non, ça vient directement de Jésus-Christ lui-même. C'est le premier récit à être écrit. Jésus lui-même l'a donné personnellement à Paul par révélation. Et voici ce que Jésus donc a dit. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Cette coupe est le fruit de la vigne donc qui est dans la coupe. Et quoi ? Il ne dit pas « est égal à mon sang » et « mon sang ». Il dit « cette coupe est égale à une nouvelle alliance en mon sang ».« Buvez, dit Jésus, car cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Ce n'est pas là que la coupe se transforme en alliance. L'idée est absurde et personne, absolument personne dans n'importe quelle église dirait ou prétendrait que la coupe devient la nouvelle alliance, quoique Jésus a bien dit « cette coupe est la nouvelle alliance ». Il a bien dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Et quelqu'un pourrait objecter et dire, ben, si Jésus dit qu'une chose est une autre chose, eh bien, c'est qu'elle doit être de manière vraie, réelle et substantielle, la même chose. Jésus a dit, cette coupe est, de manière vraie, réelle et substantielle, la nouvelle alliance. Il ne faut pas dire qu'elle représente seulement la nouvelle alliance. Non, elle et la nouvelle alliance. Ceux qui boivent la nouvelle alliance. Non, cette idée est absurde et personne n'y croit. Personne n'argumente de cette façon. Tout le monde accepte que quand Jésus prend la coupe, qui est faite pour boire, et quand il dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, il ne parle pas d'une égalité physique, mais que la coupe qui est bue représente une alliance conclue dans le sang de Jésus-Christ. C'est une alliance conclue dans le sang. Alors, si vous voulez savoir donc ce que Jésus veut dire quand il a dit ces paroles à Matthieu, qui sont racontées par Matthieu et Marc, eh bien, lisez les autres paroles prononcées par Jésus qui nous sont données par Luc et par Paul. Jésus s'explique lui-même. Quand il dit « ceci est mon sang, le sang de l'Alliance », il est en train de dire « ceci est la nouvelle Alliance en mon sang ». Les deux doivent forcément avoir le même sens parce qu'ils remplacent une des phrases par l'autre. Ah, c'est pas les deux choses ensemble. Jésus dit, cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. Donc, ce que Jésus nous donne, c'est un événement auquel nous pouvons participer. Il est l'hôte. C'est son repas. Et la prochaine fois, nous allons parler de cela, tout ce que cela veut dire. Et s'il nous a conviés à ce repas, c'est qu'il ne manquera pas d'être là, n'est-ce pas? Jésus est présent. Si c'est son repas, il doit être présent même d'une manière spéciale, on peut dire. Comme quand Jésus dit, si deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Jésus est partout, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes rassemblés ensemble, il est là. Quand nous observons le repas du Seigneur, il est là, il est présent, sa présence est réelle. Sa présence nous est donnée à travers son esprit. Mais nous ne voulons pas devenir idolâtres en disant que les éléments deviennent la réalité physique et puis que Christ va être emporté plus tard dans la salle et que pour avoir une communion avec lui, il faut que vous reveniez ici demain pour regarder ces éléments. Ça serait et demeure l'idolâtrie. Alors la beauté Et je termine avec ça. Hein. C'est l'application ne concerne donc pas les éléments. Vous voyez que la Bible ne dit pas comment tenir les éléments ou les stocker. C'est pas ça qui est important pour la Bible. La Bible est soucieuse de notre manière de célébrer. Parce que c'est un événement. Et la beauté de ce repas n'est pas que le repas est Christ, mais qu'il nous amène à Christ. Ce n'est pas le repas du Seigneur qui sauve, c'est le Seigneur du repas qui nous sauve. Et le repas est précieux parce que le Seigneur est précieux. Le repas n'est pas donné pour ajouter à ce que Christ a fait si parfaitement sur la croix, mais c'est pour commémorer et pour communier avec, c'est pour commémorer ce qu'il a fait et communier avec celui qui l'a fait. Et c'est ainsi que nous devons nous approcher donc de ce repas. Christ est un sauveur parfait. Et quand il est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et c'est pour cela que nous avons la confiance que nous pouvons, même connaissant tous mes péchés, que je puisse être sauvé. C'est parce que Christ a tout accompli. Alors, utilisons ce repas pour nous approcher véritablement du Seigneur et ne pas prendre de ses bienfaits et tourner le dos à Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur nous aide. Prions le Seigneur. Seigneur, ces pensées sont immenses et elles nous dépassent. Et nous prions pour tous ceux qui sont là. Que tu nous aides à véritablement communier avec le Seigneur. Que chacun puisse rentrer avec ta parole et ton esprit en eux et la parole devant eux et la prière qui s'adresse à toi, que nous puissions chacun avoir une communion véritable, spirituelle et réelle et qui nous sauve parce que tu désires nous sauver. Que chacun et chacune puisse savoir qu'aujourd'hui est le jour du salut, que le salut leur est offert gratuitement en Jésus-Christ par le moyen de la foi. Bénis ces pensées à nos cœurs, nous prions. Amen.